Alléluia. Nous sommes en train d'étudier Éphésiens chapitre 6. Nous arrivons à la fin de cette étude. Dans Éphésiens chapitre 6, nous sommes en train de parler de... Nous sommes en train de parler de... De... L'armure de chrétien. Et le titre de message, c'est... Armé et dangereux. Alléluia. Le chrétien est un homme, une femme qui doit être armé et dangereux, qui terrorise les ténèbres, pas qui est terrorisé par les ténèbres. Nous sommes en train de voir donc dans Éphésiens chapitre 6, comment faire pour vivre victorieusement en tant que chrétien. Nous avons constaté que Jésus nous a sauvés. Jésus nous a délivrés. Il nous a délivrés du péché, de l'emprise du péché. Il nous a délivrés des ténèbres. Ce qui fait que Satan n'a plus de droit sur nous. Il peut plus se la jouer avec nous. Amen. C'est extraordinaire. Parce que la Bible nous dit que c'est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est l'esprit qui agit dans les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et quand vous venez à Jésus, il vous en libère. C'est une bonne nouvelle. Et il nous a délivrés. Donc, nous avons vu le casque de salut longuement la semaine dernière. Mais donc, l'apôtre Paul est quand même en train de les mettre en garde pour vous dire, écoutez, vous êtes sauvés. Vous appartenez à Jésus. Jésus a détruit les puissances des ténèbres. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Mais attention, il y a toujours une opposition contre votre vie. Mais Dieu vous a positionné spirituellement de telle sorte que vous êtes en mesure de contrer cette opposition. Mais cette opposition est réelle et elle existe. Et ce n'est pas votre voisine, même si elle est méchante. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas non plus la sœur avec les cheveux orange. Les démons ne sont pas dans ses cheveux. Amen. Alléluia. Mais il est en train de nous dire que dans le monde spirituel, il y a une opposition contre nos vies. Mais il nous dit en même temps que notre réaction vis-à-vis de cette opposition devrait être de résister. Dites résister. Et de tenir ferme. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où Dieu nous dit de nous laisser faire et de capituler et de pleurnicher et de dire « Oui, Dieu m'a abandonné. Je sais pas pourquoi tout ça m'arrive. » Tout ça arrive parce qu'il y a une opposition. Mais nous devons apprendre comment réagir. Donc, nous allons lire ce passage dans Éphésiens à partir de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. C'est très très parlant et je vous ai expliqué la semaine dernière que nous ne pouvons pas prendre nos désirs pour la réalité. Beaucoup de gens aimeraient que rien ne me dérange, rien ne me trouble, je veux vivre la vie en long fleuve tranquille. Ce n'est pas vrai. Il faut connaître la réalité et ensuite connaître la manière de vivre victorieusement. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le chrétien peut vivre victorieusement. Amen. Et doit vivre victorieusement. Amen. À cause de la victoire de Jésus. Donc au verset 10, il nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. J'aime beaucoup toute la description qu'il donne de Jésus. Ça change l'image traditionnelle que les gens ont de Jésus. Jésus, cet enseignant si doux, si simple, si aimable, si gentil. Enfin, le pauvre, il a été crucifié, le pauvre. L'image que les évangiles et l'image que les épîtres donnent de Jésus, et à l'Apocalypse c'est encore autre chose, c'est de quelqu'un qui est venu pour une mission, qui a accompli sa mission et qui a été victorieuse. Et qui reste victorieux et qui reste victorieux. Jésus en partant disait, toute autorité m'a été donnée, donc je vous envoie, faites en mon nom. Et lorsque nous lisons dans Colossiens, il nous explique comment il a dépouillé toutes les autorités, toutes les dominations. Il a triomphé victorieusement. Quand vous pensez à Jésus, pensez victoire, pensez puissance, pensez autorité. Il nous parle ici de sa force toute puissante, une force qui domine sur toutes les forces et toutes les puissances. Et lorsque nous avons fait l'enseignement sur le nom de Jésus, nous avons vu de long en large la puissance qui est dans le nom de Jésus. Alléluia. Au-dessus de toutes les dominations et de toutes les autorités. Et ici, il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et c'est ce que nous avons examiné ces dernières semaines. Quelles sont les armes de Dieu dont nous devons nous revêtir? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, la parole de Dieu nous dit que nous devons tenir ferme, mais nous dire comment tenir ferme. Nous tenons ferme en prenant les armes de Dieu. Alors, je suis sûre que la question que tout chrétien intelligent va poser, c'est, alors, quelles sont les armes de Dieu? Si je veux pouvoir tenir ferme. Ensuite, il explique encore, pour qu'ils comprennent l'importance, la nécessité de revêtir toutes ces armes, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En d'autres mots, ce n'est pas Boris le problème. Alléluia. Même si vous n'aimez pas son sourire, ce n'est pas lui le problème. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous dis, ces esprits méchants sont méchants. Et si vous pensez qu'un être humain est méchant, c'est que vous ne connaissez pas encore la méchanceté. Même s'il y a des gens vraiment méchants. Donc, il explique, il dit, voilà la situation. C'est pourquoi revêtez, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, nous avons aussi constaté qu'il y a toujours un mauvais jour. Amen. Nous vivons dans un monde qui est déchu. Jésus est merveilleux avec nous, mais les autres ne sont pas toujours. Et le diable ne l'est jamais. Et il continue à opérer dans le monde. Donc, il y a un mauvais jour. Il y a des choses qui vont arriver, que vous allez être... Ou les choses qui ne vont pas arriver. Mais pourquoi? Mais je sais, mais pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Faut de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Donc, il nous explique quelles sont ses armes. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prends cette image d'un soldat romain. Cette épître a été écrite en prison. Donc, on imagine qu'il y avait beaucoup de soldats romains autour. Donc, c'était une image qui était facile à voir. Comment ils étaient équipés et comment ils se protégeaient. Et de la même façon, nous devons nous protéger spirituellement. Parce que je suis chrétienne, j'aime Jésus de temps en temps. Je suis à l'église le dimanche, le pasteur est gentil, le papa est drôle, là, c'est tellement bien. Non, ce n'est pas ça seul. Il faut aller plus loin. Revêtir, se protéger. Vous mettez vos chaussures pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Nous avons vu tous ces différents éléments et la semaine dernière, nous avons vu le casque du salut qui est un très beau casque. Amen. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce matin, nous allons voir l'épée de l'esprit. C'est absolument magnifique. Parce que lorsque jusque-là, nous avons vu toutes ces différentes armes qui sont des armes défensives. Et il y a parmi ces armes, cette toute dernière qui est une arme offensive. Peut-être défensive si on vient contre vous, il y a une arme offensive. C'est l'épée. Avec l'épée, vous pouvez faire des dégâts. Amen. Alléluia. Il nous a dit ici que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et la question de savoir en quoi la parole de Dieu constitue une arme. En quoi la parole de Dieu nous protège. En quoi la parole de Dieu nous permet d'être victorieux. En quoi la parole de Dieu nous permet de résister dans le mauvais jour? Quand des choses arrivent, quand il y a des revirements, alléluia, il y a une arme qui nous permet d'avoir un revirement. Ça s'appelle la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il faut la connaître. Parce que si je ne la connais pas, je ne peux pas m'en servir. l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous savons que cette Bible est inspirée par le Seigneur. Et je ne veux pas entrer dans ces détails, nous avons un enseignement en quatre parties sur la parole de Dieu qui va vous expliquer des détails sur comment la Bible nous est arrivée, pourquoi nous pouvons lui faire confiance comme étant la parole de Dieu. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour, elle me disait, mais je pense pas que en lisant la Bible, je puisse venir à la foi. J'ai dit, je suis la preuve vivante, moi, qu'en lisant la Bible, on vient à la foi. Parce que c'est un livre qui est inspiré de Dieu et Dieu se révèle à celui qui le cherche réellement. Elle m'a dit, ah oui, ça c'est vrai, parce que si c'est pas un livre comme les autres, non, ce n'est pas du tout un livre comme les autres. Et c'est un privilège pour nous de l'avoir. Il y a des gens qui ont donné leur vie parce qu'ils ont essayé de traduire la Bible dans des langues vernaculaires que le commun des mortels puisse comprendre. Alléluia. Et donc, il nous a dit ici que si nous voulons résister à l'ennemi, il y a une arme offensive que nous devons avoir et c'est la parole de Dieu. Nous savons qu'elle est inspirée de Dieu, nous savons que la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Quand je lis la Bible, je ne suis pas en train de chercher ce que j'ai pas le droit de faire. Je cherche ce que Dieu a envie de me communiquer. Seigneur, je veux te connaître. Parle-moi, montre-moi qui tu es, comment tu es. Fais en sorte que je sois en phase avec toi. Et en harmonie avec toi. Dieu se révèle. Dieu nous révèle ce que nous sommes devenus en Jésus. Quand nous venons à Jésus, il y a un changement d'identité spirituellement. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Physiquement, nous semblons être les mêmes. Certains changent, deviennent beaucoup plus jolis. Amen. Parce qu'il y a un éclat qui se voit à l'extérieur. La lumière à l'intérieur se voit à l'extérieur. Il y a quelque chose qui doit changer. Ah, la gloire de Dieu. Et donc, mais spirituellement, il y a un changement qui s'est passé. Et nous pouvons changer spirituellement, recevoir Jésus, mais continuer à vivre dans la médiocrité dans laquelle nous vivions avant. Si nous ne connaissons pas par la parole de Dieu ce que nous sommes maintenant devenus. Nous savons ce que nous sommes devenus, quels sont nos privilèges et nos droits, et nous pouvons saisir ces choses que Dieu nous offre. Lorsque je me réveille le matin et que je me sens déprimée, avant je me restais dans la déprime, mais maintenant je sais qu'il n'y a aucune raison pour que l'enfant de Dieu soit déprimé. Amen. Parce que dans sa parole, j'ai vu qu'il m'a montré qu'il y a des puits de joie. Amen. Alléluia. Et que je vais pouvoir puiser dans ces puits de joie. Donc quand je me réveille et que je me sens pas très bien, je dis Seigneur, les puits de joie qui sont mon héritage en tant qu'enfant de Dieu, je reçois ces puits de joie, je reçois ce fleuve de joie et la joie commence à déborder. Alléluia. Mais alors donc la parole de Dieu révèle ce que je suis devenu en tant qu'enfant de Dieu et ce qui est à ma disposition. Ça c'est déjà une arme contre l'ennemi parce que nous avons vu la semaine dernière que beaucoup des attaques contre nos vies viennent dans nos pensées. Et les choses, oui, tu es ceci, tu vas jamais être, tu es ça, ça ça va pas, il t'aime pas, il te déteste et lui carrément il te tuera. En démon par base. Ah bon? Ah bon? Mais quand on connaît la parole de Dieu, on est en mesure de dire, non, non, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que je suis. Voilà ce que la Bible dit que je suis. Et nous permettons ce changement d'identité. Dieu nous révèle notre niveau d'identité. La parole de Dieu est aussi la puissance de Dieu pour accomplir sa volonté. Plus nous l'avons en nous, plus nous avons sa puissance pour accomplir sa volonté. Et donc, comment est-ce que nous revêtons l'arme de Dieu? La première chose, c'est que nous prêtons attention à la parole de Dieu. Dans Proverbe, notez simplement la référence, Proverbe chapitre 4, du verset 20 au verset 22, il dit ceci, « Mon fils, dites à votre voisin, mon ami, alléluia, sinon dites mon fils, hein, sois attentif. Je vous lis le verset. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Amen. Nous voyons encore, non seulement la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit qui nous permet de nous défendre et d'attaquer. Donc, Proverbe nous a dit, prête l'oreille. Prête attention. Quand la parole de Dieu est prêchée, écoute au lieu de dormir.
Alléluia.
Et quand tu rentres à la maison, prends un CD, continue à écouter. Prête l'oreille. Prête attention. Attention. Ça demande une attention. Pas simplement pendant une heure dans la semaine, mais une attention constante. Prête attention. Écoute, tends l'oreille, médite ma parole. Prête l'oreille à mes discours qui ne s'éloignent pas de tes yeux. S'ils ne s'éloignent pas, s'ils ne doivent pas s'éloigner de tes yeux, ça veut dire que ce n'est pas une fois par semaine que je lis ma Bible, ce n'est pas une fois tous les trois jours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Déjà, s'ils ne sont pas devant tes yeux, ils ne peuvent pas être au fond de ton cœur. Alléluia! C'est pas contagieux à ce point, parce que je me tiens à côté de Flo, c'est dans le cœur de Flo, pss, ça saute dans mon cœur. Non! Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est extraordinaire. C'est la vie. Qui a besoin de vie? Moi, j'ai besoin de vie. J'ai besoin de vie, donc j'ai besoin que sa parole soit au fond de mon cœur, qu'elle soit devant mes yeux. Je la lis, je la médite, j'étudie, je prends des notes, je pose des questions. Je viens assommer Flo le cours Racine pour lui dire, alors ça, j'ai lu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et à chaque fois qu'il me voit venir, il fait, ouh! Ah, amen. Alléluia. Même si elle fait ça, elle est contente. Parce qu'en enseignant de la parole de Dieu, aime les gens qui étudient la parole et qui viennent avec beaucoup de questions. Et qui veulent savoir, et ça comment c'est, et ça comment c'est, et ça pourquoi, et ça pourquoi. Et c'est frustrant pour un enseignant de la parole d'avoir personne qui vienne poser des questions. Tout le monde écoute, c'est bien? Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais, ouais. Enfin, papa dit. Ouais. Si tu veux, hein. Ça va, hein. Enfin, on n'est pas trop en désaccord, on n'y a pas pensé. Et donc, quand nous revêtons l'arme qui est la parole de Dieu, c'est d'abord, nous y prêtons attention. Elle est au fond de notre cœur. Si elle n'est pas au fond de votre cœur, elle ne pourra pas vous parler. Et ça, c'est la deuxième chose. La parole de Dieu doit vous parler. Parce qu'elle a une voix. Amen. C'est un livre vivant. Et quand vous donnez la peine d'y prêter attention, d'écouter les enseignements, de lire, de méditer, d'étudier, de noter, elle va vous parler. Elle va commencer à vous montrer des choses. Vous allez voir, waouh, je voyais pas ça avant. Ah, c'est comme ça. Ah, Seigneur, donc c'est, ah, mais c'est, oh, mais c'est bien!
Alléluia!
Elle a une voix, elle va vous parler. Elle m'a parlé quand je me suis convertie. Mécréante que j'étais. Pourfendeuse des chrétiens. Alléluia! Mais j'ai commencé à la lire et j'ai dit, Dieu, montre-moi. Je veux savoir. Parce que, hein, chacun a son histoire, les Rose-Croix, ils disent ça. Les musulmans, ils disent ça, les bouddhistes, ils disent ça. Quand il y a encore des gens avec les robes blanches, ils disent autre chose. Alors, toi, tu dis quoi? Elle va vous parler. La parole de Dieu a une voix, elle parle à ceux qui veulent entendre. Et c'est important de vouloir entendre, et non pas simplement de vouloir confirmer sa théorie personnelle. Ou de vouloir trouver un argument pour contrer le frère parce qu'il en fait trop. Et parfois, c'est notre chair qui prend le dessus. Parce que, ah, la semaine dernière, ce petit, il a que 16 ans, 15 ans, 14, 13, 15 ans. Il a posé une question. Mais non, moi, j'ai le double de son âge. Moi, je vais poser une question beaucoup plus spirituelle et plus profonde la semaine prochaine. Faut pas croire. Alors, je vais aller regarder la parole. Seigneur, parle-moi. Il ne parle pas. Et là, on va sortir quelque chose, on va mettre la confusion dans la salle, ça va être n'importe quoi. Mais la parole de Dieu nous parle quand nous venons avec un cœur ouvert et nous voulons simplement apprendre et connaître Dieu et nous écoutons des enseignements. Et une phrase qui est dite va révolutionner nos vies.
Amen.
Parce que Dieu est attiré par les gens qui prêtent attention et qui tendent l'oreille. Et ça amène la libération. Vous prenez les armes de l'esprit lorsque vous laissez la parole de Dieu vous parler. Quand la parole de Dieu commence à vous parler, elle commence à faire des choses curieuses à l'intérieur de vous. Elle commence à vous faire croire des choses inimaginables. Rappelez-vous l'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang. Cette femme était très malade, elle était malade pendant des années. Et la Bible nous dit qu'elle a dépensé quasiment tout ce qu'elle avait sur des médecins. Alors pour tous ceux qui pensent que dès qu'un médecin vous dit que vous êtes condamné, c'est la fin, ce n'est pas la fin. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Dieu a le dernier mot. Les hommes font jusque là où ils peuvent, mais Dieu fait au-delà de ce que l'homme peut. Et cette femme était malade, elle n'avait plus rien, elle était dans un état désespéré. En plus, elle n'avait même pas le droit d'être là. Mais elle a entendu parler de Jésus. Et sur la base de la parole qu'elle a reçue, la parole lui a parlé, il s'est passé quelque chose à l'intérieur d'elle et elle s'est dit, je vais le toucher et je sais que dès que je le touche, je serai guérie. Quelque chose s'est passé à l'intérieur. Parce que souvent nous négligeons ce qui doit se passer à l'intérieur de nous. Nous entendons un frère ou une sœur dire en passage et nous aussi on commence à le dire. Mais c'est là, ce n'est pas là. Et cette femme, elle a touché, elle a dit, rien que le bord de son vêtement. Je n'ai pas besoin qu'il jeûne pendant 3 jours pour moi. Je n'ai pas besoin qu'il m'impose. Je n'ai pas besoin qu'il me voie. Si je peux simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Parce qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Et quand elle a touché le bord de son vêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie. Instantanément. Au point où Jésus s'est retourné pour dire, qui m'a touché? Parce qu'il a senti que la puissance était sortie de lui. Sur la base de la foi qui était dans le cœur de cette femme, sur la parole qu'elle avait entendue sur le fait que Jésus guérissait. Et cela a fait quelque chose à l'intérieur d'elle. Et elle était convaincue qu'il lui suffisait de le toucher. Et parce qu'elle avait la foi et qu'elle a agi, la puissance est sortie, elle a attiré la puissance de Dieu. Et la puissance est venue en elle et elle a été complètement guérie. Jésus l'a guérie sans qu'il ait décidé de la guérir. Simplement à cause de ce que la parole avait fait en elle. Elle avait la foi et elle a pris sa guérison. C'était extraordinaire de voir. Souvent, ils amenaient les gens à Jésus. Ils disaient qu'ils amenaient les gens à Jésus pour qu'ils entendent Jésus et qu'ils soient guéris par lui. Et ce que vous entendez joue un rôle fondamental dans ce que vous devenez. Si vous entendez constamment les gens vous dire que de toute façon, cette affaire de Dieu, ça ne marche pas, vous allez finir par les croire. Vous allez finir par perdre pied. Mais si vous entendez constamment Dieu vous parler dans sa parole, ça va bâtir la foi à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous croyez en point, c'est tout. Vous êtes solide. Ça bâtit une force et une solidité à l'intérieur. Et quand les attaques de la vie viennent, vous êtes solide. En point, c'est tout. On parlait hier, et quelqu'un parlait d'une situation qu'elle avait vécue. Elle a eu une réaction comme ça, oui, mais à l'intérieur d'elle-même, c'était le calme total. Le calme total. Elle s'est dit, mais pourquoi je m'ajoute? À l'intérieur, c'était solide, stable. Alors, quand Satan vient avec ses histoires, parce qu'il en a beaucoup et de tout genre, vous avez une solidité et une stabilité à l'intérieur qui vient du travail que la parole de Dieu a opéré en vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est une arme contre les attaques de l'ennemi. Le mauvais jour, vous n'êtes pas obligé d'être c'est parce qu'il m'arrive. Non. Lorsque la parole de Dieu a déjà bâti cette stabilité, lorsqu'il arrive quelque chose, vous êtes là, So, Dieu est Dieu. Il n'a pas changé. Il fait un chemin au milieu du désert. C'est son style, c'est son genre, il n'est pas à son premier essai.
Amen.
Et quand Satan vient vous dire, mais regarde ce qui s'est passé, c'est pas possible, et c'est la fin, vous dites, stop. Ce n'est absolument pas la fin, ce n'est que le commencement. Parce que moi, j'ai lu dans sa parole, je connais un Dieu qui, en plein milieu de désert, nourrissait son peuple pendant 40 ans. C'est sa spécialisation. Changer l'impossible en réalité. Mais ça, c'est une solidité qui vient parce que je me suis rempli de la parole de Dieu. J'ai prêté l'oreille à ses discours. Je revais l'arme de Dieu qui est la parole de Dieu. Je prends l'épée de l'esprit. Ensuite, en déclarant la parole de Dieu. Ah, ça, c'est quelque chose que les gens qui sont dans les milieux évangéliques depuis quelques années, ils savent. Faut confesser la parole. N'est-ce pas? Et ça veut dire quoi? Le mot confession, c'est le mot homologia qui dit dire la même chose que Dieu. En réalité, Dieu veut nous apprivoiser. Il veut que nous pensions comme lui. Il veut que nous parlions comme lui. Il veut que nous agissions comme lui. Et lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, quand nous prêtons attention à la parole de Dieu, elle nous parle, elle nous change à l'intérieur, elle bâtit la foi en nous, la solidité et l'assurance, et elle est censée sortir de notre bouche. Parce que vous savez, nous parlons de toutes ces dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, ces esprits ont une voix, ils parlent. Et beaucoup de fois, il parle à votre tête, il parle à votre situation. Il vous dit, voilà, ça, ça, ça. Il vous met une image négative de vos circonstances. Si vous vous installez pour les écouter, à la fin, on dit, bon, ok, on va se jeter dans la scène. C'est fini, là. Je vous dis, là, hein? Mais la parole de Dieu a une voix, et cette voix doit être aussi la vôtre. Nous nous sommes appelés à dire la même chose que Dieu dit. Rappelez-vous les 12 espions. J'aime beaucoup l'histoire des 12 espions. Lorsque les 12 espions ont été envoyés par Moïse pour aller voir la terre de Canaan, pour aller regarder, Dieu leur a dit, je vais vous donner cette terre. Quand Dieu donne une parole, considérez que c'est fait. Maintenant, entre l'accomplissement et le moment où la parole a été donnée, il y aura beaucoup d'obstacles. Mais jusqu'à ce que vous voyez l'accomplissement, il faut continuer à dire ce que Dieu a dit.
Amen.
Alors, les 12 espions sont partis regarder Canaan. Ils ont vu que c'était bien. Ils sont revenus. Ils devaient faire un rapport à Moïse et aux anciens. 10 d'entre eux ont pris peur. Et on commençait à dire, mais oui, la terre est bien, oui, c'est tout ça, oui, extra, magnifique, tout ce que vous voulez, mais il y a des géants. Et ces gars, ils sont terribles. Nous, devant eux, on était comme des sauterelles. Et les deux autres ont vu la même chose. Mais les deux autres avaient la parole de Dieu en eux. Les deux autres ont dit, non. Il ne faut pas avoir peur. Dieu nous donnera ce pays. Les deux autres ont déclaré la même chose que Dieu. Mais parce que la majorité était contre, ils ont suscité une rébellion parmi le peuple. Et Dieu a réagi contre. Dieu a décidé, bon, vous n'irez pas. Mais est-ce que vous savez, tous ces gens qui ont murmuré sont morts dans le désert. Nous avons le choix, dire ce que Dieu dit ou dire ce que Satan nous dit. En général, lorsque vous commencez à répéter les paroles négatives de Satan, c'est le désert et c'est la mort dans le désert. Mais quand on commence à dire, je vais dire le contraire de ce que je vois. Je vais dire ce que Dieu dit. Rappelez-vous, quand Dieu a créé la terre, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et Dieu n'a pas dit, oh là là, c'est informe, c'est vide, c'est pas possible. Il a dit que la lumière soit. Il a appelé à l'existence ce qu'il souhaitait voir. De la même façon, nous prenons l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, en déclarant la parole de Dieu. Le contraire de ce que nous sommes en train de voir, mais en disant ce que Dieu a dit. Et c'est ce que nous finissons par voir. Elle change la situation. Et les deux qui ont tenu ferme, 40 ans après, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, Caleb et Josué, maintenant Josué était le chef, Moïse était déjà mort, mais Caleb, 40 ans après, il a obtenu sa promesse. Les autres sont morts. Lui, il avait 80 ans, et il a dit à Moïse, Moïse, j'ai toutes mes forces. Ah, il a dit à Josué, j'ai toutes mes forces. Et je peux. Je peux prendre la terre, et il l'a prise, il a obtenu son héritage. Parce qu'il s'est tenu à dire la même chose que Dieu en dépit des circonstances. Comment est-ce que je saisis l'épée de l'esprit? Je déclare sur ma vie ce que Dieu déclare sur ma vie. La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je veux que vous compreniez que quand Dieu parle, il ne parle pas juste pour le plaisir de parler. Il donne sa parole dans votre vie, dans votre situation, parce qu'il veut accomplir quelque chose. Et quand il y a les oppositions en tout genre, votre rôle, ce n'est pas de dire, ça n'a pas marché. Comme font beaucoup de gens. Dieu leur donne une parole. Ils voient quelque chose dans la parole de Dieu. Le contraire se produit dans leur vie. Rappelez-vous, il y a une opposition. Alléluia. Et quand le contraire se produit dans votre vie, la réaction ce n'est pas, eh ben voilà, ça marche pas, ben voilà, je me doutais bien, il faut croire à la foi, et voilà ce qui m'arrive. Et ça s'arrête là. Mais Dieu nous dit de prendre l'arme qui est sa parole. Et quand tout le contraire de la promesse de Dieu arrive dans votre vie, vous prenez la parole de Dieu pour dire, ah non, ah non. Dieu a dit que je suis le premier, je ne suis pas le dernier. Qu'il me bénira dans toutes les œuvres de mes mains. Donc je déclare la bénédiction de Dieu sur les œuvres de mes mains. Et je chasse ces malédictions au nom de Jésus, je ne le permets pas. Je déclare la même chose que Dieu. Il y a une opposition et elle est souvent féroce. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais souvent, les chrétiens veulent que Dieu fasse malgré eux. Et il y a de temps en temps une action souveraine de Dieu où il fait malgré nous. Mais la règle générale, c'est que Dieu fait avec nous. Et c'est la raison pour laquelle il nous exhorte à prendre les armes de l'esprit. Pour les prendre, il faut le connaître. Et pour prendre l'arme de l'esprit, qui est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il faut la connaître, la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on enseigne la parole de Dieu. Parce que c'est curieux, mais ça ne s'apprend pas par osmose. Et beaucoup de gens qui mettent la Bible sous leur oreiller, si vous avez grandi dans les églises traditionnelles comme moi, on met la Bible sur le chevet, elle est toute jolie, on n'y touche jamais. Une belle Bible sur le chevet ou sous l'oreiller. Quand j'étais à l'école, on ouvrait la Bible, un verset qu'on aime bien, un passage qu'on aime bien, Isaïe 53, merveilleux, et on met sous l'oreiller et on dort la tête dessus. On se dit, oui, mais c'est la parole de Dieu. Mais c'est curieux, les versets ne sont jamais transportés tout ça dans mon cœur. Jamais. Il a fallu que je les médite, que je les étudie, que j'écoute des enseignements. Et là, j'ai compris ce qui est mon héritage et ce à quoi j'ai droit. Et quand le diable vient s'y opposer, je dis non. Voici ce que dit la parole de Dieu. Mais pour pouvoir lui dire, voici ce que dit la parole de Dieu, il faut le savoir. Amen. Comme dit Florentine, toute
Flo, c'est quoi le verset tout?
Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Alléluia. Et réagir avec la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Autre manière de prendre l'épée de l'esprit, c'est déclarer la parole de Dieu dans votre vie, dans vos circonstances. Vous savez, c'est très simple. Il y a des fois, vous avez l'impression que, est-ce que je suis vraiment sauvé? Ça arrive souvent aux gens quand ils viennent de donner leur vie au Seigneur. Après, le diable vient te dire, mais t'es pas sauvé? T'as menti à ta mère hier. Mais t'as pas sauvé? Toi, tu penses que tu vas retourner à l'église? Tu dois même pas montrer ton visage là-bas, parce que ça, c'est de l'hypocrisie. Quand on est chrétien, en mensonge comme ça, t'as dit que tu venais à 5 heures, tu n'y es pas allé. Oh non, là, franchement, non. Là, tu peux pas dire que t'es sauvé. Ça, c'est se moquer de Dieu qu'on est sauvé comme ça. Non, tu restes chez toi et tu restes avec... Arrête, c'est l'hypocrisie. Et là, ah ouais, c'est vrai, moi, je vais pas être hypocrite, je vais pas aller, je vais être hypocrite, c'est vrai, j'ai menti hier, je vais pas être hypocrite, je vais pas être hypocrite, non. Si vous connaissiez la parole de Dieu, vous auriez pris l'épée de l'esprit pour dire que non, la parole de Dieu dit de ceci, si nous nous repentons de nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Ah non, je me suis repenti. Et mauvaise nouvelle pour toi, je suis déjà pardonnée. Donc je vais être le premier à l'église. Et pour te vexer davantage, je vais me mettre devant. Et pour t'irriter encore plus, je vais sauter et danser pendant 2 heures. Même pendant la prédication. Alléluia. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Savoir ce que Dieu nous dit. Ce matin, dans nos cours, vous avez parlé des attributs de Dieu. Je vous ai expliqué que le but, c'est de connaître la personne de Dieu, sa personnalité. Parce que nous avons tellement d'idées bizarres sur Dieu. Et nous nous jugeons, nous nous condamnons, parfois nous vivons dans l'immoralité parce que nous ne connaissons pas comment est Dieu. Et quand on connaît les attributs de Dieu, on est en sécurité parce qu'on sait comment il est et on a l'assurance avec lui. On n'est pas constamment en train de... Ah non, je vais pas à l'église parce que là, je pourrais plus rien faire. Dieu va me fêter. Non. Dieu n'est pas là avec son fouet à vous chercher. Parce que vous, quand il me trouve, elle a pris. Gabriel, elle a sévré le coup. Vas-y, fouette là. Dire ce que Dieu dit sur nos vies. Prenez l'habitude de dire ce que Dieu dit. De dire la parole de Dieu sur vous. À chaque fois que je parle de ça, je vous parle juste du fait que, il y a un verset dans un des épîtres de Jean que j'aime bien dire, et c'est simple, il dit, vous êtes né de Dieu. Et j'aime dire, je suis né de Dieu. Tous les jours, pratiquement, je le dis, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Alors, vous savez, le diable, il vient jamais me dire, t'es pas sauvé, pardon, qu'est-ce que tu as bu ces derniers temps, ton cas s'aggrave. Non, je ne suis pas, pardon, je suis né de Dieu. La vie de Dieu est en moi. Dites ce que Dieu dit sur vous. Ça, c'est l'épée de l'esprit. Quand tout le contraire vient, oh, tu n'es rien, tu n'es pas digne. Ah oui, ça, c'est vrai que je ne le suis pas, mais Jésus m'a rendu digne. Alléluia. La Bible me dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Jésus n'a pas honte de moi. Alors, quand vous êtes quelque part et vous voyez que les gens qui ont un peu honte de vous, please. Oh, Jésus n'a pas honte de moi. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je veux que vous regardiez avec moi dans Marc 11. Il y a un passage ici qui est très, très important. L'épée de l'esprit pour résister le mauvais jour. Dire et déclarer la parole de Dieu parce que Satan viendra vous dire le contraire. Il faut que vous sachiez identifier cela, dire ça c'est pas ma pensée, ça c'est pas la parole de Dieu, ça sent le soufre. Alléluia. Et parfois il va même vous dire des choses qui sont vraies mais qui ne sont pas bien séantes. Il va vous montrer tout ce qui ne va pas chez votre belle-mère.
Il va vous montrer tout ce qui ne va pas chez votre maman. Il sait que vous commencez à ne pas trop aimer certaines choses. Il va mettre une couche et une couche. Mais regarde comment elle t'a parlé. C'est pas que tu grandis. Mais à ton âge, tu devrais être indépendant. T'as que 17 ans. Et alors? Petite fugue, elle comprendra, elle saura te respecter. Des confessions. Alléluia. En parlant de confession d'ailleurs, pour que vous compreniez très bien, lorsque je parle de confession, je ne parle pas d'aller confesser vos péchés à quelqu'un. Dieu seul pardonne les péchés. Je parle de déclarer la parole de Dieu. Alors ici dans ce passage, en fait, ce n'est pas Marc 11 que je voulais voir. Je crois que c'est Matthieu 4 que je voulais. Je ne l'ai pas dans mes notes, mais c'est Matthieu 4. Nous allons terminer peut-être avec Marc 11, mais d'abord Matthieu 4. Dans Matthieu 4, il nous raconte l'histoire de la tentation de Jésus. Alors Jésus a été, à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère public. Et il a eu le moment de baptême avec Jean-Baptiste. Et ensuite, si vous suivez la lecture, vous avez déjà lu certainement Matthieu. Et ensuite, le Saint-Esprit est venu sur lui. Il y a eu le témoignage du Père qu'il est le Fils bien-aimé. Et ensuite, il a été conduit dans le désert. Et là, il a été tenté par le diable. Et ce que je veux que vous remarquiez ici, c'est que lorsque le diable a tenté, lorsque le diable a essayé de l'induire dans la désobéissance, il a utilisé la parole de Dieu. Il est venu lui dire, la parole de Dieu, chapitre 4, Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, vous imaginez, il eut faim. Ensuite, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, 40 jours et 40 nuits sans manger, ça donne faim. Certains ont fait le jeûne de Daniel en début de l'année où vous pouviez manger le soir. Il y a quelqu'un, je ne vous dirai pas qui me regardait et me disait, mais je peux? Était convaincu que rater un seul repas, c'était la mort. Donc, vous pouvez imaginer que là, Jésus, 40 jours et 40 nuits, il n'avait pas mangé. Après, ensuite, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains deviennent, que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand il a dit, il est écrit, il ne l'a pas inventé. Il a cité en passage dans Deutéronome 6, au verset 16. Jésus a résisté au diable en citant la parole de Dieu. En disant, voici ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ça que je vais faire parce que toi tu dis. Et c'est la même chose pour nous dans nos vies. Quand il y a des choses qui viennent, des gens qui viennent nous dire des choses ou des pensées qui nous viennent, oui mais fais ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous êtes malade à en mourir, on vous dit c'est la fin, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous commencez à déclarer la parole de Dieu. L'arme de l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et Jésus a utilisé l'épée de l'esprit. Il a répondu en citant la parole de Dieu. Ensuite, il nous dit, c'est le diable, il lâche pas si facilement que ça, hein. C'est pas parce que vous lui avez dit non, au nom de Jésus, tout en va, je refuse. Il reviendra le lendemain. Au cas où vous aurez changé d'avis. va s'arranger pour que quelques personnes vous énervent dans la journée, que vous avez l'impression que vous avez perdu votre salut. Comme ça, le lendemain, quand il vient, vous allez capituler. Et il s'est pas arrêté. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai dit ces attaques. Je dis, mais ok, tiens bon, prie. Oui, mais ça continue. Mais évidemment, ça continue. Le diable est têtu. Il faut être plus têtu que lui, c'est tout. Même avec Jésus, il a essayé. Faut le faire, hein. Quand même. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et là, il ajoute une couche. Là, il cite la parole de Dieu. Il dit, il donnera quand il est écrit. Et cette fois-ci, c'est Satan lui-même qui dit, il est écrit. Et ça ne vient pas du deuxième épître de Satan, ça vient de la parole de Dieu. C'est seulement pour vous voir le genre d'opposition à laquelle nous sommes confrontés et le fait que, et ne pas se laisser faire ou se faire avoir. Oui, mais j'ai entendu ton passage dans mon rêve. Donc c'est certainement que je ne suis pas digne. Non, ça n'a rien à voir. Alors, il cite les Écritures. Il dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En citant le psaume 91, que nous aimons beaucoup. En citant Jésus au péché, en tordant la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite un verset, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Et Jésus répond ceci. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Alléluia! Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui devraient se rappeler ce passage parce que souvent les gens me disent des choses. Oui, tu sais, ils m'ont mis au défi, ils ont dit oui, mais si ton Dieu est Dieu, pourquoi tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça? Parce que Dieu est le Dieu de la grâce, mais pas le Dieu de la stupidité. Tu ne vas pas tenter Dieu juste parce que tu n'as rien à prouver à quiconque. Même dans les choses qui sont de la volonté de Dieu. Quand quelqu'un vous dit, ah oui, mais moi, je vais croire quand je vais voir, hein. On a parlé de quelqu'un il n'y a pas longtemps. Mais si mon frère est guéri, je vais croire. Et vous êtes là, passez votre vie. Oh, Seigneur, guéris son frère. Oh, guéris. Oh, s'il te plaît. Oh, t'es pas gentil, t'as pas guéri son frère. Maintenant, il va pas croire en Dieu Jésus. Mais guéris son frère. Et Dieu te dit, prie plutôt pour le frère en tel. Oui, mais le frère en tel, ça va. Mais ton frère, vous passez une semaine, il n'est pas guéri. Deux semaines, il n'est pas guéri. Après, vous perdez votre foi. Mais pourquoi le frère dentelle? Parce que Dieu ne t'a pas dit de lui prendre la tête avec le frère dentelle. Il t'a dit, entelle. On te dit, oui, mais c'est ceux-là, ils vont bien, ils sont pas malades. Mais ils ont autre chose que tu ne sais pas. Et que Dieu lui sait. Et il veut faire quelque chose. Et par ailleurs, le frère, il serait guéri, la personne serait même pas convertie. Donc, j'ai dit ça à quelqu'un l'autre jour, j'ai dit, oui, mais si la personne dont tu parles est guérie, c'est pas une raison pour que tu te convertisses, tu vas trouver une autre explication. Oui, mais bon, c'est l'effet placebo. Par ailleurs, dans la suite de la phrase, la personne tout de suite m'a parlé de l'effet placebo. Vous imaginez, dès que je lui ai dit, oui, mais je savais que la personne allait trouver une explication. Et tout de suite après, elle m'a sorti l'explication qu'elle allait trouver de toute façon. Sinon, vous auriez passé deux semaines, deux mois, et à la fin, vous direz, oh Seigneur, vous êtes déçus. Jésus a dit non. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il a utilisé la parole de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu est en vous, vous êtes en mesure de l'utiliser pour dire à Satan, tais-toi, mets-toi à ta place. La parole de Dieu, c'est la révélation du cœur de Dieu et des desseins de Dieu. Lorsqu'il dit, je te bénirai dans toutes les œuvres de tes mains, il a bien l'intention de le faire. Donc, quand vous regardez les œuvres de vos mains, vous avez l'impression que rien n'est béni, rien ne marche.
La réaction, ce n'est pas, oh, c'est pas vrai, de toute façon, c'est pas la peine de croire en Dieu parce qu'il ne fait jamais rien pour moi. Je racontais à quelqu'un une histoire que j'avais entendu raconter par un serviteur de Dieu. Je sais pas si c'est à quelqu'un ou si c'est à vous que je racontais l'histoire. Ça m'a tellement parlé. D'une femme qui n'était même pas si fidèle que ça, mais à chaque fois que ses enfants étaient malades, ses enfants étaient guéris. Et un autre couple qui était un peu plus fidèle quand même. Et eux, ils étaient jamais guéris. Et lui, il comprenait absolument pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il demandait à Dieu parce qu'il a dit, ce n'est pas ma foi parce que moi, je croyais même pas que ces gens-là seraient guéris. Et Dieu lui a montré carrément une image des deux familles et leur manière de se présenter. Et il y a une, la mère, celle qui n'était pas particulièrement fidèle, mais qui avait quand même saisi une parole de Dieu. Et à chaque fois qu'elle l'appelait pour prier pour ses enfants, elle allait carrément le rencontrer pour dire, bon, moi je sais que je suis pas grand chose, hein, je suis pas vraiment si bien que ça en tant que chrétien, mais au moins, je sais que la Bible dit ceci. Que si quelqu'un est malade, appelez les anciens de l'église, ils vont le oindre d'huile et la prière de la foi guérira la personne. Donc, je crois que Dieu aime ses enfants, hein. Et je suis sûr qu'ils vont guérir, hein. Dès que vous allez prier pour eux, ils vont être guéris. Et il disait qu'ils étaient toujours guéris. Ils avaient la fièvre, dès qu'ils posaient la main dessus, la fièvre tombait. L'autre famille, le Seigneur lui a montré l'image, il arrive. C'est à peine s'il vient lui ouvrir la porte. Il frappe longtemps. Il y a quelqu'un qui finit par venir. Oh, c'est toi, entre. C'est le pasteur. Oh, c'est toi, entre. Et nous suivons jusqu'au chevet du malade en parlant. De toute façon, moi, je dis, c'était pas la peine de t'appeler parce que nous, on n'est jamais guéri. Je suis sûr qu'il va rien se passer. La personne sera pas guérie. Et la personne n'est pas guérie. La mort et la vie, nous dit la parole de Dieu, sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire au jour le jour sur votre vie et sur votre situation? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pour ça qu'on voit des enfants qui grandissent, qui ne font jamais rien, parce que toute leur vie, les parents disent, celui-là, il ne veut jamais rien faire. Celui-là, il ne veut rien. Mais quel que soit votre passé, quand vous donnez votre vie à Jésus, il y a un nouveau commencement. Alléluia. Et quel que soit ce qui a été déclaré sur vous, quand vous donnez votre vie à Jésus, il y a un nouveau commencement. Et là, vous commencez, vous, à dire ce que Dieu dit sur vous. Et les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Et c'est ça, prendre les armes de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il y a un dernier point lorsqu'on parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Faire ce qu'elle dit. Parce que souvent, nous sommes volés par notre désobéissance et notre rébellion. Et il y a des fois, en tant que pasteur, j'ai de la peine pour les gens parce que et ils savent ce que dit la parole de Dieu, mais ils veulent pas suivre. Oui, mais pasteur, tu sais, ah, mais tu comprends. C'est bon, ouais. Et vous savez qu'il y aura des répercussions. Il y aura, parce que le mauvais jour, ils ne vont pas tenir. Et ce n'est pas normal. Dieu veut faire une différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui sont pas à lui. Mais l'obéissance à la parole de Dieu nous permet de pouvoir réagir. Suivre ce que Dieu nous dit de faire. Écouter et faire. Et quand vous lisez la parole, vous allez voir Dieu exprime son cœur, il exprime ses désirs. Et le tout, c'est dit, ok Seigneur, je suis sûr. Qu'est-ce que tu veux? Ben d'accord. Ta volonté, pour moi, c'est bon. Dès que je sais que tu veux, moi aussi je veux. Et si je constate que je ne veux pas, change-moi pour que je commence à vouloir. Il y a un verset qui dit que Dieu nous donne le vouloir et le faire. C'est magnifique. Que même quand vous voyez quelque chose dans la parole de Dieu, vous savez que, ah, vous n'en avez vraiment pas envie, mais alors pas du tout. Soyez pas hypocrite, vous faites, ah, merveilleux Seigneur, je vais t'obéir. Non, dites Seigneur, ça, franchement, je vais te dire, j'ai aucune envie de faire ça. Enfin, là, il y a que toi qui peux dire des choses pareilles, parce que moi, non, ça me dit pas. Mais je veux t'obéir. Change mon cœur. Change mes pensées. Change mon attitude. Je veux que tu me reformates à ta façon.
J'ai été formaté par le monde, formaté par ma génération, formaté par ma famille, formaté par la société pour penser d'une certaine manière, pour voir certaines choses comme étant normales. Et toi, tu me dis que c'est pas normal, ce n'est pas comme ça. Eh bien, change-moi. Je veux que tu me changes. Je veux être en accord avec toi. Je ne veux pas te mentir. Je lis ça, je dis, ah, je suis pas d'accord. Ah, quand je me suis convertie, je lisais la Bible tout le temps. Je voyais des choses. Non, je suis pas d'accord! Et les gens qui me connaissaient au début, alors qu'est-ce que je les ai fatigués? J'aimais Jésus, mais alors, ça, pas de doute. J'aimais Jésus. Oh Seigneur, j'aimais Jésus, je louais, j'aimais Jésus. Mais alors, comportement? Mais pourquoi je peux pas faire ça? Et pourquoi je peux, et pourquoi c'est, et pourquoi c'est, et pourquoi, ouf! Je bénis Dieu pour leur patience. Comment ça, je peux pas? Mais je fais de mal à personne. Mais pourquoi? Et quand vous voyez les choses qui provoquent les pourquoi en vous, parlez avec Dieu. Dites, Seigneur, je suis pas d'accord, mais bon, je sais que tu sais plus que moi, donc, change-moi. Change ma perspective. Je veux t'obéir. Je veux pas être... Vous comprenez? Ce qui fait la faiblesse des chrétiens, c'est, j'aime Jésus, mais je n'obéis jamais à Jésus. Je fais mon truc à moi, mais j'aime le Seigneur quand même. Je fais mon truc, mais j'aime le Seigneur quand même. Alors, le mauvais juge, là, oh, Seigneur! Mais la vraie joie, c'est quand je suis en conformité avec sa volonté. Il nous donne le vouloir et le faire. Il nous permet de vouloir ce qu'il veut. Il nous permet de faire ce qu'il veut. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a que Dieu pour faire des choses comme ça. Alléluia. Il n'y a que Dieu pour faire des choses comme ça. Il nous donne de vouloir ce qu'il veut. Et ça, c'est important. Parce que Dieu n'est pas là avec son... C'est quoi cette pensée? Non! On a cette impression d'un père fouettard. Si c'est pas un père permissif, c'est un père fouettard. Chaque petit écart, wham! Il a sa police, les anges qui surveillent. C'est une relation d'amour, mais il y a aussi une question d'obéissance. Tout n'est pas bon et tout n'est pas acceptable. Quand on veut vraiment marcher devant Dieu, quand on veut vraiment être fort et victorieux. Mais le tout, c'est d'avoir le cœur pour dire, Seigneur, change ma perspective. Et vous allez être étonné. Quelqu'un me parlait, j'étais tellement bénie par cette conversation avant le culte, et il me disait, parce que même il y a des choses que je faisais avant, mais maintenant si je le fais, oh, j'aime pas, je me sens pas bien. J'ai dit c'est merveilleux, parce que ça veut dire que Dieu travaille en toi. Il est en train de changer tes désirs, il est en train de changer ta perspective. Et croyez-moi, la perspective de notre société n'est pas toujours la bonne. Les choses qui nous sont communiquées à la télévision, à la radio, ne sont pas vérité d'évangile. Le style de vie n'est pas du tout vérité d'évangile. Donnez-vous le droit de vous révolter. Et d'être rebelle. Envers les mœurs de notre société. Dis, moi non. Je discutais un jour avec des personnes au dîner, et elles sortaient des trucs, elles parlaient d'adultère, de des gens qui trompent leur mari, mais c'est pas grave tant qu'ils ne le savent pas, tant qu'elles ne le savent pas, etc. Mais ils en ont sorti de ces choses. Il y a des gens qui me connaissaient, d'autres qui me connaissaient pas. Une personne partie qui ne me connaissait pas, qui parlait, des gens qui me connaissaient étaient là, avec leur petite souris. Et après, j'ai dit, oui, mais, écoutez, on ne veut même pas entrer dans cette discussion parce que comme vous savez, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Oui, ils ont dit, c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors, ce que vous considérez comme étant normal, moi je considère comme de l'adultère, et c'est un péché. Donc, nous n'avons pas les mêmes valeurs, on va changer de conversation. Est-ce que vous comprenez? Donnez-vous le droit de dire non à la pression de la société pour vous conformer en son image. Décidez de vous conformer à l'image de Dieu, à l'image de la parole de Dieu. Et c'est ça qui vous rend fort. C'est ça qui vous rend puissant. C'est ça qui vous permet de résister le mauvais jour. Non. La parole de Dieu dit ceci. Et vous voyez les choses changer. Alléluia. Obéir à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Alléluia. Rappelez-vous Josué. Donc, Josué chapitre 1, verset 8, qu'est-ce que Dieu lui dit? que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En d'autres termes, tu dois dire. Dire. La parole de Dieu doit sortir de nos bouches. Par exemple, quand on prie pour les gens pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, on leur dit, il faut ouvrir la bouche et parler. On ne peut pas parler en langue, la bouche fermée. De la même façon, vous ne pouvez pas vivre votre vie la bouche fermée. Vous devez déclarer la parole de Dieu tous les jours. Voici ce que Dieu dit, et je suis en accord, en plein accord. La parole de Dieu dit que je suis une créature merveilleuse. Quand vous regardez dans le miroir, dites, je suis une créature merveilleuse. Le diable, tu perds tes cheveux, tu vas être chauve à 45 ans. Non, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Peut-être que je suis la seule personne à le savoir, mais je le sais. Que vous le sachiez ou pas, peu importe. Moi, je le sais. Je suis une créature merveilleuse. Dire ce que Dieu dit. Que ce livre, Dieu parle à Josué. Josué commence sa mission sur la terre. Sa mission. Parce que jusque-là, il suivait Moïse. Et un jour, Moïse n'est plus. Et maintenant, Josué a une mission. Et pour l'inaugurer dans sa mission, Dieu lui dit quelque chose de puissant. Imaginez la première chose, parmi les premières choses que Dieu lui dit, dans ce moment crucial de sa vie. Ce qui va conduire à la réussite de sa vie. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Et ensuite, il dit ceci, pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il y a une question d'obéissance à la parole de Dieu. Pour agir fidèlement. Dès que Dieu vous montre quelque chose, quand il vous dit par exemple que il ne faut pas dire du mal des gens et que vous avez l'habitude de dire du mal des gens, et vous vous rendez pas compte jusqu'à un jour où le Seigneur commence à vous dire, arrête de dire du mal des gens, arrête de dire du mal des gens. Tiens, mais c'est ma nature. Ma grand-mère a toujours dit du mal des gens. Mon grand-père a dû le supporter, dû la supporter. Ma mère, Seigneur, moi, c'est rien à côté des autres. Non, il s'est obéi de faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Donc, il nous dit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et la promesse que Dieu lui donne, c'est car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dites succès. C'est curieux, Dieu aime le succès. Des gens qui pensent que Dieu aime que l'on soit malheureux, pauvre, minable et petit dans notre coin, parce que nous sommes chrétiens, vous comprenez? Et nous sommes saints. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je suis émerveillée par le fait que Dieu veut que ses enfants réussissent. Mais il nous dit qu'il y a des choses à faire. Alors, de l'autre côté, il y a l'opposition qui veut à tout prix que nous échouions. Et Dieu, ici, veut que nous réussissions. Et il nous dit, si vous voulez réussir, il faut que ma parole soit en vous. Méditez-la jour et nuit. Et obéissez à ma parole. Et dans Éphésiens, c'est la même chose qu'il nous dit. C'est l'épée de l'esprit avec laquelle vous allez contrer les oppositions contre votre vie. Qu'elle ne s'éloigne pas, que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche, ce qui veut dire que tu vas la déclarer. Tu vas la dire. Et la redire. Et donc, manque 11. Il nous parle du fait que vous parlez à la montagne. Et quand vous parlez à la montagne qui est devant vous, vous aurez ce que vous avez dit. En général, dans votre vie, vous avez ce que vous dites. D'où l'importance que vos paroles soient les paroles de Dieu. Et non pas les paroles de votre voisine qui prend un peu de hashish dans son temps libre. Vous ne savez jamais de quoi les gens s'inspirent. Amen. Ils viennent comme ça, ils vous parlent, et parce que vous les trouvez sympathiques, vous répétez ce qu'ils disent. Amen. Méfiez-vous. Ah, vous trouvez ça drôle? Méfiez-vous, vous serez étonnés de voir d'où les gens tirent leurs idées. Ou quelqu'un a regardé un dessin animé la veille, a entendu des trucs bizarres et vous a dit ça le lendemain avec beaucoup de sérieux. Et vous avez, ah ouais. Et là, vous commencez à répéter la même chose comme parole d'évangile. Là, vous allez à l'église, on vous dit, oui, la parole de Dieu. Oui, mais bon, moi, je pense que, quoi? Parce que ton évangile, c'est le dessin animé. Elles ont parlé des gens qui ont leur religion devant les feuilletons télévisés. Ah mais Pamela avait dit. Ah oui, mais en plus, quand Peter est arrivé, c'est toujours des prénoms américains, quand Peter est arrivé, Pamela a réagi. Ah mais elle a eu un geste. Et votre méditation s'arrête là. Il faut pouvoir dire non à toutes ces choses et vraiment être comme Josué, un homme qui était destiné à de grandes choses. Vous êtes destiné à de grandes choses. On ne joue pas avec sa vie. On vit une seule fois. Ce que vous semez en vous, c'est ce qui va déterminer le cours de votre vie et le degré de victoire dans lequel vous allez vivre. Il y a chrétiens et il y a chrétiens. Tous les chrétiens ne sont pas pareils. Ne vivez pas de la même façon. Choisissez de vivre dans la victoire de Jésus et de faire le nécessaire. Dieu aimait Josué. Josué a été fidèle. Il a suivi Moïse, mais fidèlement. Mais Dieu n'a pas dit, mais c'est bon, tu as été fidèle, tu as été là, mais écoute, fais comme tu veux, je vais quand même te bénir. Non. Dieu lui a donné des instructions. Que cette parole, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois la dire, la parole de Dieu, la dire. Caleb et Josué, ils ont cru ce que Dieu a dit, ils ont répété ce que Dieu a dit. Et les autres ont dit, Et ils ont eu ce qu'ils ont dit. Caleb et Josué ont eu ce qu'ils ont dit. Et Dieu va accomplir, ou c'est Dieu qui accomplit les paroles que vous déclarez, parce que la Bible nous dit que ses anges obéissent, les anges obéissent à la voix de sa parole. Quand vous êtes en train de déclarer sa parole, ce sont les anges qui se mettent en action. Toute l'armée invisible qui se met en action. Ou c'est Dieu qui va accomplir sa parole que vous déclarez, ou c'est Satan qui va accomplir sa parole que vous déclarez. Moi, je veux que Dieu accomplisse sa parole. Et je vais la déclarer. Nuit et jour. Dieu ne se lasse pas de vous entendre dire ce qu'il dit. Ne pensez pas que, j'ai confessé que l'Éternel est mon berger 20 fois, c'est bon là. Non, tant que vous avez envie, continuez à la confesser. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand vous êtes là, vous allez à la banque, vous pensez que vous allez avoir un découvert, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Évidemment, ça veut dire que vous ne faites pas de gros chèques, que vous n'avez pas de sous, mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand vous avez des images de votre frigo vide, je ne sais pas possible. Aïe, je pense que je vais aller au Monoprix. Je sais que vers la fin de la journée, ils regardent pas trop. Ils font pas tellement attention. En plus, je vais aller avec la fille de ma cousine. Elle est toute mignonne et gentille. À chaque fois que les gens la voient, tout le monde a envie de lui parler comme ça pendant ce temps-là. Vous serez étonné de ce à quoi le diable va vous tenter. Il va vous tenter avec des choses bizarres. Et toujours dans des moments de faiblesse. C'est quand Jésus avait faim qu'il est allé lui dire, tiens, mais transforme la pierre en pain puisque tu es le Fils de Dieu. Il pouvait très bien le faire parce qu'il avait faim. Ah non. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce n'est pas parce que j'ai faim que je vais maintenant faire quelque chose à l'instigation du diable. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas comme ça. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De quoi je me nourris? Je me nourris de la parole de Dieu. Ce que je crois, ce qui sort de moi, ce que je vois dans ma vie, est le fruit de ce avec quoi je me nourris. Alléluia. Il est vrai que le fait de beaucoup manger de concombre ne vous donne pas une tête de concombre, mais ça vous nourrit. Ça vous nourrit. Je me souviens quand j'étais petite, j'envoyais des photos des enfants qui souffraient de kwashiorkor. Les enfants qui souffraient de kwashiorkor, c'est des enfants qui étaient privés de certains aliments, qui étaient mal nourris. Et des petits corps, des petits membres et des ventres comme ça. Et quand on commence à les nourrir correctement, le même enfant, tout change, l'aspect change. Vous voyez le avant et le après, waouh, quelle différence! Ces photos m'avaient tellement marqué que j'avais envie de travailler pour une organisation d'aide et travailler dans l'humanitaire. Tellement on est marqué par ces images d'enfants mal nourris. Et spirituellement, certains d'entre nous, nous pouvons ressembler à ces enfants qui souffraient de kwashiorkor. Tellement nous sommes mal nourris par rapport à la parole de Dieu. Ce qui fait que le mauvais jour, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'énergie, nous n'avons pas de punch. Alléluia. Mais dès que nous commençons à nous nourrir, c'est un peu comme les enfants, tout change, l'aspect change. Et ça se passe à l'intérieur, il y a un changement. Et là, nous sommes en mesure de prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et elle marche toujours. Toujours. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Ce qui compte pour nous, c'est savoir comment ça marche dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut et comment Dieu veut. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que Dieu veut est bon. Amen. Ce que Dieu veut est bon. Et il y a des personnes que je connais depuis une dizaine d'années. Quand je vois comment elles se sont appliquées dans la parole de Dieu, je vois le changement. Et il y a des gens que je connais depuis moins de temps, mais je vois le avant et le après. La différence. Il y a des gens, je ne vois pas la différence. Alléluia. C'est pas toi, hein? Et il y a d'autres, vous voyez le changement, mais vous savez jusqu'où il pourrait déjà être si c'était vraiment rempli de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Toujours savoir ce qui est écrit. Dire ce qui est écrit. Et réagir dans les circonstances adverses en déclarant la parole de Dieu. En disant, je ne me laisse pas faire. Mais si vous ne savez pas ce qui est écrit, qu'est-ce que vous allez dire? Parfois, lorsque les gens vivent des situations difficiles, on dit, tu fais confiance à la parole de Dieu? Oui. Alors, tu pries quel verset? Je sais pas. Mais Dieu est bon, quoi. Il faut un peu plus. Que Dieu est bon, quoi. Il faut une révélation. Il faut pouvoir dire non, 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 non. La parole de Dieu dit, il bénit mon pain et mon eau et il enlève la maladie du milieu de moi. Alléluia. C'est que cette parole, c'est pas pour rien que les apôtres ont prêché la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas l'histoire de tout ce dont Dieu a envie de nous priver. C'est l'histoire de tout ce que Dieu a envie de faire en nous, pour nous et à travers nous. Des hommes et des femmes que Dieu veut transformer et en faire des géants et en témoignage dans leur génération. Alléluia. Gloire à Dieu, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et la dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est quand on parle d'obéissance à la parole de Dieu, je vous ai parlé de la femme qui souffrait d'une perte de sang. Le témoignage que Flo a donné tout à l'heure, c'est un témoignage d'obéissance à la parole de Dieu. Je n'ai pas l'impression qu'elle ait donné le début. C'est peut-être qu'elle vous l'a donné quand je n'étais pas ici. Mais le début, quand elle a décidé de semer, de faire ce chèque alors qu'elle n'avait pas les moyens, c'était quelque chose, je pense que c'était quelqu'un qui t'avait donné les 100 euros, n'est-ce pas? Et Dieu lui a dit, les 100 euros qu'ils t'ont donné, je veux que tu me les donnes. Elle est là, bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui a précédé cela? Ce qui a précédé, c'était la parole de Dieu qu'elle a entendue. C'est le dimanche où je n'étais pas là où Béa a partagé sur la générosité envers Dieu, sur le fait d'être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Amen, c'est bien cela. Et quand elle a entendu ce message, ça a touché son cœur. Et Dieu a parlé à son cœur et elle a décidé d'obéir. Et c'est suite à son obéissance qu'elle a déclenché quelque chose dans l'esprit. Et que Dieu a pu la bénir. L'obéissance à la parole de Dieu dans tous les domaines. Cette femme a obéi, elle a eu une action qui correspondait à ce qu'elle voulait et à sa foi. Elle est allée toucher Jésus. Si elle se disait, je sais que si je le touche, je serai guérie, et qu'elle était restée à sa place, est-ce que vous savez qu'elle n'aurait pas été guérie? Il y a une action qui correspond. La parole de Dieu que vous entendez va demander une action. Et il faut prendre cette action. Il faut entamer cette action. Et parce qu'elle a réagi à la parole qu'elle a entendue, elle n'était pas la seule, sûrement d'autres ont dû entendre pour dire, ah ouais, c'est beau, ça en jeu, je vais pouvoir faire ça. Elle a dit tout de suite, je fais. Et il y a eu une réponse de la part du Seigneur. Ça, c'est dans le domaine de finances. Il en va de même dans le domaine de la guérison. Il en va de même dans tous les domaines de nos vies. La passivité n'est pas de l'enfant de Dieu. Il y a toujours une action et une réaction. Hallelujah. Glory to God. J'ai été frappée un jour par quelque chose que Marie-Cécile a dit. Elle parlait d'une expérience qu'elle a faite dans l'évangélisation et elle parlait donc des gens dans l'église. Elle a dit, mais bon, à l'église, on sait qui est qui. On sait qui est qui, on sait, on sait ceux qui sont vraiment très spirituels, ceux qui sont à fond dans la parole, etc. Dans l'esprit aussi, on sait qui est qui. Le diable sait qui est qui. C'est la raison pour laquelle les 7 fils de Sceva ont essayé de chasser les démons, et ils ont été tabassés par les démons. Mais quand Paul les chassait, ils partaient. La mesure de la parole de Dieu qui est en nous, c'est ce qui détermine ce que nous sommes dans l'esprit. Et lorsque nous déclarons, il est écrit, les circonstances sont obligées d'obéir à la parole de Dieu. Donc la prochaine fois que vous êtes tenté de commencer à vous inquiéter, oh, qu'est-ce que je vais faire? Allez voir ce qui est écrit. Est-ce que vous êtes d'accord?
Amen.
Veillez d'abord à ce que vous obéissez à ce qui est écrit. Et s'il y a un domaine de désobéissance dans votre vie, demandez pardon au Seigneur. Il vous pardonne, il n'est pas rancunier.
Amen.
Eh oui, maintenant, parce que tu veux être guéri, tu veux me demander pardon. Non, nous on fait ça. Nous on fait ça. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, tu demandes pardon parce que tu veux me demander une faveur. Mais Dieu, il est content que vous lui demandiez pardon. Demandez pardon. Il pardonne et vous saisissez la parole de Dieu pour dire, ah non, voilà ce qui est écrit. Donc, j'encourage chaque personne, dans chaque circonstance de votre vie, vous attendez quelque chose de la part du Seigneur. Qu'est-ce qui est écrit? Posez-vous toujours la question. Quand vous êtes face à quoi que ce soit, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de ce que je suis en train de vivre? Et si vous ne savez pas, parce que vous ne connaissez pas assez la parole de Dieu, appelez quelqu'un et dites, mais dis-moi, dans ce genre de circonstances, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et donc, c'est la base sur laquelle vous allez demander au Seigneur, Seigneur, ta parole dit ceci. Et je te le demande. Et vous allez le déclarer selon vos circonstances. Et quand le diable vient vous dire ça ne marchera pas, dire oh non, 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 non. Laisse-moi te dire ce que dit la parole de Dieu parce que je sais. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa parole. Thank you, Father.